Transformation.
7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et le journal de 7h30 vous est présenté par Julie Drouin.
Les représailles israéliennes, l'Iran annonce avoir abattu plusieurs drones cette nuit. Plusieurs explosions ont retenti près d'une base militaire. Un début de réponse, vous l'entendrez. La mise en vente de Biogarant, le leader des médicaments génériques en France, et plusieurs repreneurs étrangers sont déjà sur les rangs. Enfin, le coup d'envoi des législatives en Inde. Retour sur les 10 ans au pouvoir de Narendra Modi en fin de journal.
Après le journal, un nouveau concept dans le renseignement. La déclassification stratégique, autrement dit divulguer des informations stratégiques, est vraie, c'est la tendance, nous explique Christian Macarian. Suivi du journal imprévisible, le Grand Palais, l'une des plus vieilles salles polyvalentes de Paris. Et puis enfin, David Barou s'interroge sur le coup de mou des ventes de voitures électriques en Europe. Le début de la riposte israélienne en Iran.
Des drones ont été abattus cette nuit par le régime iranien et au moins 3 explosions ont été entendues dans la province d'Ispahan, près d'une base militaire. Pas de victimes ou de dégâts importants. Les installations nucléaires de la zone n'ont pas été touchées. Ce matin, les États-Unis reconnaissent avoir été prévenus de ces frappes israéliennes, bien qu'elles n'aient pas été approuvées. De son côté, l'armée israélienne se garde de tout commentaire, comme elle en a coutume. Pour Fabrice Balanche, maître de conférence à l'Université Lyon 2, cette attaque n'est toutefois qu'un début.
Israël ne peut pas accepter évidemment que son terrain soit bombardé et va forcément répliquer œil pour œil, dent pour dent, hein, ça c'est très clair. Essayer de détruire donc les sites de lancement des missiles iraniens qui ont frappé Israël, et visiblement c'est ce qui a été fait cette nuit. Une seule frappe, moi ça me paraît un peu léger, parce que c'est pas seulement une frappe symbolique pour montrer qu'Israël peut frapper aussi le territoire iranien, ça on le savait déjà. C'est pour vraiment détruire les capacités offensives de l'Iran contre son territoire.
En Israël, des sirènes d'alerte ont aussi été activées dans le nord du territoire, théâtre d'échanges de tirs réguliers ces derniers temps avec le Hezbollah libanais, allié iranien. L'Australie appelle enfin en réaction tous ses ressortissants à quitter Israël et les territoires palestiniens.
La nouvelle bouscule, le milieu pharmaceutique Biogarant, leader des médicaments génériques en France, est en vente.
Cette filiale des laboratoires Servier détient un portefeuille de 900 médicaments différents et emploie au total 8600 personnes, la plupart en sous-traitance. À la table des potentiels repreneurs figurent deux entreprises indiennes spécialisées dans le générique. Les précisions tout de suite de Rémi Fister.
Pas assez rentable ni stratégique, en vendant sa filiale de produits génériques, Servier souhaite accélérer dans l'innovation. Anticancéreux, antidiabétique de nouvelle génération, depuis plusieurs années, les grands laboratoires français repositionnent leur offre. Et l'âge du lest, explique l'économiste de la santé, Nathalie Coutinet.
Novartis l'a fait avec Sandoz, Sanofi l'a annoncé avec sa branche d'Oliprane. Voilà, on voit bien qu'il y a deux logiques dans les productions de médicaments. Il y a une logique innovation-rentabilité, et puis il y a une logique médicaments à bas prix, mais avec des économies d'échelle et de l'externalisation de la sous-traitance. Les firmes choisissent entre ces deux modèles. Elles ne font plus les deux.
Pour l'économiste de la santé Frédéric Bizard, cette vente est une stratégie risquée. Biogarant représente près de 900 références de médicaments et dispose d'un réseau de distribution européen sans équivalent.
Biogarant est un laboratoire plein d'avenir parce que les médicaments qui ont été lancés il y a une bonne dizaine d'années, donc qui vont tomber dans le domaine public, ont une marge supérieure. Et il y a une capacité de générer des économies d'ici 2030 de l'ordre de 5 à 7 milliards. C'est un risque pour la France de ne pas avoir de moyens de maîtriser ses dépenses par l'extension du marché des génériques.
Le ministère de l'économie le sait, le dossier est brûlant, d'autant que le groupe fait travailler une quarantaine de producteurs en France.
Les précisions de Rémi Fister, et Bercy a déjà menacé de mettre son veto quant à une possible cession de Biogarant.
Les rémunérations des dirigeants du CAC 40 au cœur de l'actualité cette semaine.
Il y a celle qui fait réagir par son montant, les 36,5 millions d'euros du directeur général de Stellantis, Carlos Tavares, et celle plus mesurée de Florent Ménégo, le directeur général de Michelin, à un peu plus d'un million d'euros. Deux visions qui s'opposent et qui illustrent la diversité de rémunération en France chez les grands chefs d'entreprise, Céline Cajolis.
Et il y a d'abord les patrons que l'on appelle « worldwide », c'est-à-dire à la tête de géants dans des secteurs où la concurrence est rude, ceux qui, un peu comme des joueurs de football, ont une capacité presque unique pour développer leurs entreprises et qui sont régulièrement chassés pour partir, notamment aux États-Unis où les salaires sont plus élevés. Leur rémunération est donc en conséquence. C'est le cas de Carlos Tavares. À l'opposé, il y a les dirigeants comme Florent Ménégo de Michelin qui choisissent volontairement de limiter leur salaire à un niveau plus acceptable socialement. Florent Ménégo touche donc 1 million 1 100 000 € de fixe par an et un variable de maximum 150% de son fixe. C'est aussi le salaire le plus élevé de son groupe, mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque Frédéric Oudéa avait pris ses fonctions à la Société Générale, il avait volontairement capé son salaire, mais il était bien inférieur à ceux touchés par les stars des salles de marché. Enfin, il y a un dernier cas, celui des dirigeants d'entreprises publiques. Depuis 2012, en France, leur rémunération brute est limitée à 450 000 euros par an. C'est le cas de Jean-Pierre Farandou à la SNCF ou de Jean Castex à la RATP et de Luc Raymond chez EDF, qui n'est pas le salaire le plus élevé de son groupe, car ses directeurs ont une part variable, ce qui n'est pas son cas.
Florent, les précisions de Céline Cajoulis.
Et le président de Michelin sera notre invité à 8h15 et on reparlera du fameux salaire décent. Gabriel Attal promet un sursaut d'autorité pour endiguer la violence des mineurs.
Le Premier ministre a présenté plusieurs mesures hier, dont la responsabilisation des parents, le contrôle des écrans et le renforcement des mesures éducatives. Le chef du gouvernement veut mettre en place un accueil de 8h à 18h pour tous les collégiens, à commencer dans les quartiers prioritaires. Mais avec quels moyens, interroge Jean-Rémy Girard, le président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges.
S'ils sont accueillis de 8h à 18h tous les jours, plus le mercredi matin, ça veut dire qu'il y a un tiers du temps où ils pourraient être en cours ou ils ne sont pas en cours. Donc à ce moment-là, quels adultes s'occupent d'eux pour leur faire quoi? Nous, c'est une question qu'on pose, hein, parce que c'est bien gentil de vouloir éviter qu'ils traînent dans la rue. Si c'est pour mettre le bazar au collège, on n'est pas forcément demandeur. On rabote en ce moment même le budget de l'éducation nationale de 700 millions d'euros. On a des doutes sur le fait qu'on soit dans une politique de recrutement de personnes pour encadrer les élèves, alors même d'ailleurs qu'on en aurait réellement besoin.
Ces mesures doivent entrer en vigueur dès la rentrée prochaine. Gabriel Attal, qui a hier soir fait le point sur plusieurs mesures du quinquennat à l'occasion de ses 100 jours de bilan. Ainsi, l'engagement d'une baisse d'impôts sera tenu. Quant à l'assurance chômage, eh bien, la réforme pourrait passer par un durcissement des conditions d'affiliation.
Vous écoutez Radio Classique, il est 7h37. Coup d'envoi des élections législatives en Inde. Près d'un milliard d'électeurs et électrices sont appelés aux urnes.
Cela représente toute la population des États-Unis, de l'Union européenne et de la Russie réunie. L'Inde est d'ailleurs surnommée la plus grande démocratie du monde. Pourtant, depuis l'arrivée au pouvoir du nationaliste Narendra Modi en 2014, le pays a opéré un virage autoritaire. Et le réel enjeu de ce scrutin, Fabien Albert, est de savoir si la démocratie indienne survivra à Narendra Modi.
Médias et sociétés civiles bâillonnées, justice instrumentalisée, pouvoir concentré par les nationalistes, la démocratie indienne a du plomb dans l'aile. Jean-Claude Samouillet est le président d'Amnesty International France.
On disait que l'Inde était la plus grande démocratie du monde, mais maintenant on n'en a plus que le nom. On arrive véritablement dans un régime autoritaire qui ostracise toutes les personnes qui ne sont pas hindous. C'est une restriction sévère de l'état de droit.
Dans le viseur de Narendra Modi, les 200 millions de musulmans marginalisés, lynchés, arrêtés, considérés comme des citoyens de seconde zone. Ingrid Terwatt, spécialiste de l'Inde et docteur en sciences politiques et journaliste au Courrier international.
L'idée, c'est de faire coïncider les deux, l'hindouisme et l'Inde.
En clair, de mettre fin à l'Inde moderne et laïque. Pour cela, le parti de Narendra Modi n'a qu'un seul objectif.
Obtenir les deux tiers des sièges à l'Assemblée pour pouvoir changer la définition même de ce qu'est l'Inde dans la Constitution, c'est-à-dire un pays laïque.
Constitution adoptée en 1950, au lendemain de l'indépendance, un symbole pour Gilles Vernier, chercheur en sciences politiques à l'université d'Ashoka en Inde.
L'Inde de Nehru cherchait à construire une nation plurielle, laïque, démocratique, alors que les nationalistes hindous cherchent à créer un État et une société majoritaire.
Ambition hégémonique plus que réaliste, tant l'opposition, muselée, est divisée.
Merci Fabien Albert. Cette belle programmation au Montreux Jazz Festival, Deep Purple, Sting, Lenny Kravitz, festival qui aura lieu du 5 au 20 juillet et les billets seront mis en vente ce matin à partir de 10h.
Et puis si vous aimez vraiment le jazz, il y a Laurent de Wilde sur Radio Classique chaque soir de 19h à 20h. Julie, merci, vous revenez à 8h30. Pour le rappel des titres à suivre, l'écho du monde, Christian Macarian vous explique ce qu'est la déclassification stratégique ou comment manipuler l'adversaire en lui transmettant des informations fiables.